Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Jean-Claude Mabéa.
Nous sommes le jeudi 25 janvier 2024. Vous écoutez Radio de la Paix. Merci de nous renouveler votre confiance à la une de cette première édition de l'actualité. Cannes 2023, le miracle a finalement eu lieu. Les éléphants se qualifient de justesse pour les huitièmes de finale suite à la victoire des Lions de l'Atlas du Maroc aux dépens des Chipolo Polo de la Zambie après le limogeage de leur sélectionneur Jean-Luc Gasset. Ils retrouveront les champions en titre, les Lions de la Teranga du Sénégal, pour les huitièmes de finale le lundi à Yamoussoukro. Au terme de son intérim, le professeur Kopli Boni, le président honoraire du PDCI RDA, a passé le témoin hier au nouveau président du parti Tidiane Thiam. Présidentiel aux Comores, Azali Assoumani, définitivement réélu pour un second mandat. La revue des titres des journaux sera présentée aujourd'hui par Francis Cassi et il sera en ligne après avec l'invité de la rédaction, le professeur Praoyao Séraphin, économiste et enseignant, pour parler du projet de loi qui encadre la dette ivoirienne. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous. Vie des partis politiques après son élection à la présidence du PDCI RDA le 22 décembre 2023 à Yamoussoukro. Tidiane Thiam a pris officiellement fonction hier, mercredi 24 janvier 2024, à la maison du parti à Abidjan-Cocody. Le professeur Kopli Boni Philippe, le président honoraire du parti, qui lui a passé la main au terme de son intérim, a exhorté tous les militants et militantes du PDCI RDA à œuvrer pour la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Écoutons à cet effet le professeur Kopli Boni Philippe.
Le bout de la chaîne, cette chaîne que nous formons, c'est bien 2025. Il faut bien que notre équipe arrive à destination, à la place souhaitée. Oui, nous sommes courageux et nous savons qu'avec la détermination de tous, nous arriverons au bout de la chaîne. Je voudrais vous remercier tous d'être là, de considérer que quand on passe les témoins, on n'a pas fini. De considérer que quand on a les témoins, on doit redoubler d'efforts. C'est pour ça que je voudrais que tous ne considèrent pas qu'ils partent du PDCI-RDA, même quand ils passent la main à d'autres. C'est un acte de renouvellement qui est bien connu et bien précis. Il faut que nous continuions à redoubler d'efforts. Il faut que nous continuions à nous donner des conseils. Ceux qui remettent le relais doivent être prêts à suivre de près ceux à qui remettent le relais. Que ceux qui reçoivent ce relais soient donc emplis non seulement d'humilité, mais de courage. C'est cela qui doit être l'œuvre de notre parti.
À l'instant, le professeur Kopli Boni Philippe, le président honoraire du PDCI RDA. Après la réception et la signature des documents afférents au parti, le nouveau président élu du PDCI RDA, qui s'est fixé pour objectif les élections de 2025, a dévoilé ses priorités. Le président Tidiane Thiam.
Il faut continuer à réorganiser le parti et se mettre en ordre de bataille pour la conquête du pouvoir aux prochaines échéances électorales, notamment par la dynamisation des activités sur le terrain à travers un management plus proche du terrain, prenant en compte les spécificités de chaque zone et de toutes les zones géographiques du pays. L'attachement des Ivoiriens à notre parti s'est encore exprimé à la faveur de la semaine d'adhésion récemment organisée du 8 au 15 janvier que nous avons interrompue du fait de la CAN, qui a vu plus de 4000 nouveaux militants frappés à la porte du parti, dont plus de 70% en moins de 50 ans. Il nous faut donc poursuivre l'œuvre de nos illustres prédécesseurs et continuer à faire du PDCI-RDA un parti uni, conquérant, capable de proposer aux Ivoiriens une offre porteuse d'espoir et prêt pour gouverner dès après les échéances électorales de 2025 dans une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Les grandes batailles se construisent dans l'union et la discipline. Nous allons dans cet esprit parcourir tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire pour porter haut et fort le message du PDCI-RDA, à savoir faire la politique autrement, en prenant sans cesse l'union des filles et des fils du pays dans leur diversité et leurs différences. Nous sommes le parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Nous avons l'exigence de garder les bras grands ouverts et guidés par la tolérance et le dialogue chaque fois qu'il s'agit de l'avenir de notre pays.
À noter que le président Tidiane Thiam, que nous venons d'écouter, est le troisième président du PDCI RDA après les ex-présidents Feu Félix Foubouagny et Feu Henri Konan-Bédié. Nous vous le disions en titre, les derniers pays qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN 2023 sont connus. À 17h hier au stade Laurent Pokou de San Pedro, le Mali et la Namibie se sont neutralisés 0 but partout et se qualifient pour les huitièmes de finale. Même score pour l'Afrique du Sud face à la Tunisie au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. La Tunisie est donc éliminée. À 20h au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, la République démocratique du Congo s'est qualifié aux dépens de la Tanzanie. Score final, 0 but partout. Au même moment, les Lions de l'Atlas du Maroc prenaient le dessus sur les Chipolopolo de la Zambie sur le score de 1-0 au stade Laurent Pokou de San Pedro. La Zambie étant éliminée, c'est la Côte d'Ivoire, meilleure troisième, qui se qualifie pour les huitièmes de finale. Voici donc comment les Ivoiriens ont vécu cette qualification dans ce reportage de Jean-Mélène Bitti qui était dans un village CAN à Abidjan.
C'est dans l'hystérie totale que les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire ont accueilli cette victoire du Maroc.
Je suis vraiment en joie, Maroc, merci. Merci, aujourd'hui encore le Maroc, nous les Ivoiriens, c'est la joie qui est pour nous. On ne cherche pas autre chose, on veut seulement s'amuser. Mais on dit vraiment, on dit merci aux Marocains, merci. Merci, merci aux Marocains.
Pour Salif Traoré, Dia Salfo, lead vocal du groupe Magic System, cette qualification est le début d'une grande aventure pour les éléphants de Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire est un pays béni. Voilà, même le ciel était avec nous aujourd'hui. Et cette qualification nous donne encore plus de joie. Et je crois que là, on va plus s'arrêter jusqu'au bout.
Selon Mehdi, supporter marocain, la Côte d'Ivoire et son pays ont un destin commun dans cette compétition.
C'est la CAN de l'hospitalité. Et là, on est là, pas juste pour gagner, pour faire la fête. Et ce match-là, c'était pour la Côte d'Ivoire. Nos destins sont liés.
Réagissant à chaud après cette victoire marocaine, Aboulaye Traoré dit Ben Badi, tout en exprimant sa joie, a tenu à passer un message au nouveau sélectionneur MS Faye.
Ce que Ben dit, c'est que pour aller au paradis, il faut mourir. Donc on a eu des difficultés. Maintenant, à partir de là, on va prendre toutes les dispositions pour ne pas vivre les mêmes mésaventures qu'on a connues au premier tour. Les Ivoiriens aiment leur équipe, donc ils ont tout intérêt à nous faire avancer parce que c'est de ça qu'il s'agit.
Avec cette victoire, les éléphants de Côte d'Ivoire se voient qualifiés pour les huitièmes de finale et croisés iront le faire avec les champions d'Afrique du Sénégal le lundi 29 janvier 2024 au stade Charles Konambani de Yamoussoukro.
Cette rencontre va se jouer sans l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Jean-Luc Gassé, qui a été démis hier de ses fonctions avant la qualification inespérée. En effet, dans un communiqué, la Fédération ivoirienne de football a indiqué qu'il a mis fin au contrat du coach Jean-Luc Gassé et de son adjoint Ghislain Printemps pour résultats insuffisants. L'Ivoirien Emerce Faye, qui était l'un de ses adjoints, assurera l'intérim, précise l'instance du football dans ce communiqué. Comment réagit la presse sportive ivoirienne suite à cette décision de la FIF? Suivons ici la réaction de Magloire Diop, journaliste et consultant sportif, joint par Linda Balier.
Ça ne m'étonne pas, ça ne me surprend pas. Je pense que après le parcours des éléphants à la CAN 2023 en phase de poule, une victoire et puis deux défaites vraiment cinglantes, c'était la moindre décision à prendre. C'est une décision sage de la part du comité exécutif de la FIF. C'est celle même que j'avais souhaitée. Je pense que c'est la décision qu'il fallait prendre pour créer un choc psychologique dans le vestiaire des éléphants. En tout cas, il fallait vraiment faire quelque chose et le comité exécutif de la FIF a pris ses responsabilités et en lieu et place, elle a préféré nommer Emers Faye comme intérimaire. Pour moi, c'est du même mot pareil. Emers Faye, c'est vrai qu'il avait qualité de sélectionneur adjoint, mais il y avait vraiment un flou total autour de son rôle véritable à côté de Gassé. Parce que pour moi, le fait que dans le communiqué, on mentionne le nom de Ghislain Printemps comme étant également limogé, donc je déduis que le véritable adjoint de Jean-Luc Gassé, c'était Ghislain Printemps et non Emers Faye, qui était dans l'encadrement technique, mais qui n'avait pas ce rôle d'adjoint-là. Et donc, c'est Emers Faye qui a été mis là. Bon, je pense que peut-être c'est pour assurer un peu la continuité du service, évacuer les affaires courantes, en attendant de trouver un véritable sélectionneur.
C'était à l'instant Magloire Diop, journaliste et consultant sportif. En attendant de nommer un nouvel entraîneur, c'est le trio composé de Emers Faye, Alain Guaméné et Guy Demel qui vont assurer l'intérim du sélectionneur national. Les huitièmes de finale de la CAN 2023 débuteront le samedi 27 janvier avec l'affiche Angola-Namibie pour finir le mardi 30 janvier sur un Maroc-Afrique du Sud. Entre-temps, il ne faudra pas rater les chocs Nigeria-Cameroun, Mali-Burkina Faso et surtout Sénégal-Côte d'Ivoire. La campagne régionale de lutte contre les violences basées sur le genre, dénommée Carton Rouge, accentue sa communication surtout avec la presse invitée pour un échange avec ses initiateurs. Selon les estimations de l'OMS, au niveau mondial, 35% des femmes indiquent avoir été exposées à des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire ou quelqu'un d'autre au cours de leur vie. Les détails avec vous, Mata Touré.
Sur les objectifs de 1 million de signatures visées depuis le lancement de Carton Rouge contre les violences basées sur le genre, 300 000 ont été collectées, majoritairement en Côte d'Ivoire. Il faut accélérer le mouvement. En 2022, 7 000 cas environ de VBG ont été rapportés et pris en charge, dont près de 79% perpétrés sur des enfants de moins de 18 ans. De janvier à septembre 2023, on en dénombre plus de 5 000. Naseneba Touré, ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l'Enfant.
Les silencieux sont plus nombreux que ceux qui s'exprime. Avec le soutien de la presse et le battage médiatique, je pense que beaucoup vont s'exprimer.
Carton Rouge est une manifestation de solidarité entre les acteurs des pays dans les moyens et les méthodes d'une campagne qui va déboucher sur une feuille de route comprenant 10 engagements clés destinés à lutter contre ces VBG, à baptiser SAVE, c'est-à-dire sanctionner les actes de VBG et les pratiques équivalentes. Le système des Nations Unies accompagne déjà le projet et entend aller plus loin. La représentante résidente de l'UNFPA en Côte d'Ivoire, Cécile Compaoré-Zungrana.
15 milliards de dollars qui devrait être mobilisé pour l'élimination totale des violences basées sur le genre à l'horizon 2030 et mobilisé auprès d'une diversité de partenaires. Il y a le budget de l'État, le budget des partenaires comme ceux du système des Nations Unies, du secteur privé, des autorités locales.
Pour rappel, la déclaration finale d'Abidjan adoptée en décembre dernier a défini en 10 points l'engagement de la Côte d'Ivoire, du Congo, de la Sierra Leone pour la dissémination de cartons rouges dans leurs pays respectifs.
Actualité hors de Côte d'Ivoire, présidentielle aux Comores. La Cour suprême a proclamé hier mercredi les résultats définitifs de la présidentielle du 14 janvier. Les scores des différents candidats ont évolué de manière significative. Mais la réélection du président sortant Azali Assoumani dès le premier tour a finalement été validée malgré la contestation de l'opposition, nous apprend l'AFP. Présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal. Le Conseil constitutionnel de ce pays a publié le samedi 20 janvier dernier la liste définitive des 20 candidats à la présidentielle, une liste sur laquelle ne figurent pas deux opposants. Il s'agit de Ousmane Sonko, actuellement en prison, et Karim Wade, fils et ministre de l'ex-président Abdoulaye Wade. Quelle lecture faire de cette décision du Conseil constitutionnel? Suivons l'éclairage de Adama Sadio, il est enseignant en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a été joint par Jean-Claude Comé.
Ce qu'il y a à noter, c'est que le Conseil constitutionnel a publié sa liste définitive, une liste où il y a deux candidats manquants qui sont des candidats qui font l'objet de beaucoup d'attention. C'est la candidature de Karim Wade et la candidature d'Ousmane Sonko. Et sinon aussi, il est noté dans la liste que Bassirou Diomaye Faye ainsi que d'autres personnes qui peuvent aujourd'hui représenter, en tout cas au niveau de l'opinion, le plan B ou de l'aile de Ousmane Sonko sont retenus sur la liste officielle. Et malgré également les recours du camp du pouvoir. Donc on peut dire que le Conseil constitutionnel a coupé la porte en deux. Autant il a rejeté la candidature de Sonko, mais il a permis également à cette opinion-là représentative de l'opposition sénégalaise soit représentée donc, dans la course à la présidentielle de 2024.
Pour le cas Karim Wade, par exemple, déjà au niveau du parrainage, c'était OK, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'argument du Conseil constitutionnel?
Après la publication de la liste provisoire, tous les candidats retenus ont le droit de faire une réclamation en s'opposant à la candidature de notre candidat. Donc c'est ce que l'un des candidats de l'opposition du Nord-Etienne Olsen Sall, qui était avec le régime de Macky Sall, donc c'est ce qu'il a fait. fait, selon laquelle Karim Meïssa ne doit pas être candidat parce qu'il n'est pas de nationalité exclusivement sénégalaise.
Nous venons d'écouter Adama Sadio, il est enseignant en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. On accueille à présent Francis Kassi pour la revue des titres des journaux parus ce jour. Bonjour Kassi.
Bonjour Jean-Claude, bonjour à tous. C'est par la qualification hier des éléphants pour les huitièmes de finale, alors qu'ils ne jouaient pas et que tout était compromis pour eux, après leur défaite humiliante face à la Guinée équatoriale, que s'ouvre notre revue des titres de vos journaux de ce jeudi. Cannes 2023, le Maroc bat la Zambie et sauve la Côte d'Ivoire. Titre à ce propos, Super Sport, sur lequel renchérissent le quotidien d'Abidjan avec Cannes 2023, le Maroc sauve la Côte d'Ivoire. Ainsi que le jour plus 10 ans, Cannes 2023, et le Maroc sauva la Côte d'Ivoire. Ce qui fait écrire le nouveau réveil ceci. Repêcher in extremis pour le second tour, les éléphants ressuscités grâce au Maroc. C'est pourquoi la voix originale écrit. Et le miracle s'est produit avec cet écho de Génération Nouvelle. Éléphants, le miracle a eu lieu. Ainsi que celui-ci de l'Inter, miraculé éléphant. Pour le quotidien de soi ivoirien, les éléphants ressuscités. Ce que corrobore Fraternité Matin avec Cannes 2023, Côte d'Ivoire, la résurrection. Mais les éléphants vont jouer les huitièmes de finale sans leur entraîneur français. Note l'intelligent d'Abidjan. Les éléphants qualifiés pour affronter le Sénégal sans gasser ni les défaitistes. Pareil pour le sursaut qui semble demander plus. Non, le limogeage de Gassé ne suffit pas. Et à en croire vos quotidiens, c'est là que nous allons terminer. Le deuxième sujet phare de cette revue des titres concerne la prise de fonction officielle du nouveau président du PDCI-RDA depuis hier. Notamment le nouveau réveil qui, à cet effet, indique passation des charges hier au siège du parti PDCI-RDA, Tidiane Thiam prend officiellement fonction. Passation des charges au PDCI-RDA, Tidiane Thiam prend le pouvoir, écrit aussi l'héritage. C'est pourquoi, dernier Un Monde pour sa part dit, PDCI-RDA, l'ère Thiam a commencé. Merci et bonne lecture de vos journaux.
Merci à vous Kassi, vous ne partez pas parce que c'est vous qui recevez maintenant l'invité de la rédaction. Il s'agit du professeur d'économie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, professeur Prao Yao Séraphin. Il se félicite de la récente annonce par le président de l'Assemblée nationale disant que durant la première session ordinaire 2024 ouverte le lundi 22 janvier dernier, les députés vont examiner entre autres projets de loi celui relatif à un meilleur encadrement de la dette ivoirienne. Prao Yao Séraphin répond aux questions de Francis Kassi.
Professeur Prao Yao Séraphin, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Récemment, à l'ouverture de la session ordinaire 2024 de l'Assemblée nationale, son président a indiqué au menu plusieurs projets de loi, dont celui pour un meilleur encadrement de la dette. Que signifie un encadrement de la dette?
L'encadrement de la dette s'inscrit dans une politique de prudence au niveau de non seulement la capacité d'endettement du pays, mais du risque de surendettement. Alors encadrer la dette, c'est essayer de regarder par rapport aux ressources actuelles et futures que nous pouvons avoir, quelles sont les marges de manœuvre que nous avons au niveau de l'endettement. Il y a l'endettement intérieur et il y a l'endettement extérieur. Lorsque l'État doit aux agents économiques sur le territoire ivoirien, on appelle ça la dette intérieure. Mais quand un pays comme la Côte d'Ivoire contracte des dettes avec soit un pays étranger ou auprès d'une institution internationale, ça s'appelle une dette extérieure. Donc c'est une sorte de contrôle en fait, que le président de l'Assemblée nationale et ses camarades députés veulent faire.
Une sorte de contrôle, donc ça veut donc dire que la Côte d'Ivoire s'endette trop?
Effectivement, c'est ça. Pour un petit pays comme la Côte d'Ivoire, un stock d'armes qui dépasse les 20 000 milliards, à mon avis, c'est un peu trop. Et donc, du coup, le président Victor Go donne un signal fort au gouvernement, parce que c'est le travail de l'Assemblée nationale de veiller à ce que les choses se passent bien, chercher à canaliser cette propension de notre pays à aller vers l'endettement au lieu de chercher les voies intérieures pour le financement du développement.
Mais nous avons entendu dire que l'endettement, c'est une bonne chose parce qu'on utilise l'argent pour développer le pays.
Vous savez, les gens confondent parfois l'endettement des États-Unis et l'endettement de la Côte d'Ivoire. L'endettement des États-Unis, ça c'est normal puisque les États-Unis ont donné au monde entier leur monnaie qu'on appelle le dollar. Donc,
pour les États-Unis, c'est un endettement qui permet de stabiliser le système financier international. À rebours des États-Unis, un pays comme notre pays, la Côte d'Ivoire, je n'ai jamais dit, et je ne pense pas qu'il y ait un économiste au monde qui dise que l'endettement est à prohiber. Mais monsieur le journaliste, on s'endette en fonction des capacités de remboursement, effectivement, du pays. Si vous vous endettez et que demain, vous n'arrivez pas à payer, c'est ce qu'on appelle le surendettement. La situation ghanéenne qui aujourd'hui a conduit le Ghana dans une crise bancaire et financière sans précédent, vous le savez, les Ghanéens sont en train de se battre pour sortir de l'ornière dans laquelle ils se trouvent. Et ceux qui disent que c'est l'argent des autres qu'on prend pour se développer, je suis désolé.
Mais est-ce que vous pensez que les députés peuvent réussir à contrôler, à canaliser cet endettement-là?
Déjà, mon humble avis, moi je pense que c'est un exploit. Pour la première fois dans notre pays, je vois des députés qui se réunissent en disant que ah, nous pensons qu'il peut y avoir un risque de dérapage. Et donc, comme dans tout pays sérieux, quand on voit que le gouvernement dépense beaucoup, les députés sont là pour dire, attention, vous ne devez pas faire ceci, c'est leur rôle. Et ils peuvent faire quelque chose, les députés, en encadrant ce comportement. Maintenant, après, il faut que les députés essaient de donner des pistes, des solutions. La première piste de solution, c'est d'œuvrer à une réforme bancaire et financière dans notre pays. Je n'ai pas encore vu la réforme bancaire qui a été effectuée. Alors qu'on s'attendait à ce que l'économiste qui vient fasse une réforme bancaire et qu'il développe les circuits financiers dans notre pays à même de pouvoir, je vais dire, mobiliser l'épargne. L'économiste aujourd'hui, comme le professeur McKinnon a montré que dans les pays développés, il y a une bonne épargne. Mais c'est parce que les circuits financiers et monétaires sont très peu développés que ces circuits n'arrivent pas, effectivement, à mobiliser. Donc, il faut faire des réformes. Deuxièmement, il faut réduire le train de vie de l'État. Il y a les institutions budgétivores dont le train de vie, on peut diminuer cela. Vous savez, surtout, depuis des années, le professeur Mamadou Coulibaly propose une solution qu'on ne regarde pas, l'impôt foncier. L'impôt foncier, monsieur le journaliste, si nous arrivons à faire la réforme foncière et à distribuer les cartes d'identité de la terre, ne serait-ce que l'impôt foncier peut nous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Au niveau également des systèmes de retraite. Dans les pays aujourd'hui développés, à côté des systèmes de retraite par répartition que nous avons, parce que système de retraite par répartition, c'est quoi? Vous êtes fonctionnaire comme moi. Chaque fin de mois, on me coupe de l'argent sur mon salaire. L'argent qu'on me coupe, c'est pour payer le retraité d'aujourd'hui. Quand moi, je serai vieux aussi, ils vont couper le jeune de demain pour me payer. Or, il y a des systèmes complémentaires qu'ils ont proposés aujourd'hui dans bien des pays comme le Maroc, la Tunisie, qui sont en train d'expérimenter. En tout cas, les économies qui veulent émerger. Je pense que voilà des solutions comme ça que, bon, il faut aller vers là-bas au lieu d'aller tout droit vers toujours l'endettement.
Par rapport à l'endettement, quel est le classement de la Côte d'Ivoire en Afrique?
Je ne peux pas vous dire exactement, mais aujourd'hui, le stock de la dette, nous sommes autour de 60%. C'est vrai que la norme communautaire, c'est 70%. C'est-à-dire qu'en fait, le stock de la dette divisé par le PIB au niveau de notre zone UEMOA, cela ne doit pas dépasser 70%. Mais le FMI dit que pour les petits pays comme nous, lorsque le stock de la dette divisé par le PIB dépasse déjà 49%, il faut s'en inquiéter. Et aujourd'hui, je vous dis que nous sommes autour de 60%. Il est possible qu'il y ait un risque de surendettement, donc il faut faire très attention.
Professeur Prao Yao Séraphin, je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions, monsieur le journaliste.
Voilà, cet entretien que vous pourriez réécouter dans le journal de midi marque la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel de l'essentiel. Qu'en 2023, le miracle a finalement eu lieu hier. Les éléphants se qualifient de justesse pour les huitièmes de finale suite à la victoire des Lions de l'Atlas du Maroc aux dépens des Chipolo Polo de la Zambie. La Côte d'Ivoire retrouvera donc le lundi prochain les Lions de l'Atlas, les Lions de la Teranga du Sénégal à Yamoussoukro. Je vous retrouve à 8h pour un nouveau point sur l'actualité. Tout de suite, au cœur de la CAN, et c'est avec Didier Blé depuis San Pedro, d'où le miracle s'est produit hier pour les éléphants du Côte d'Ivoire.
Au cœur de l'ambiance de la CAN 2023, vivez les moments forts de cette grande fête africaine du football. Décryptage des matchs.